pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est le Régor, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir. Alors ce soir, une émission en deux parties. Donc la première partie, c'est la suite de ce qu'on vous a présenté la semaine dernière sur la situation en Italie, et la deuxième partie, ça sera consacré à la lutte contre CIGEO à Bure, puisque nous sommes co-organisateurs, samedi prochain, 23 février à 19h, à la Maison de Quartier Le Flambeau, d'une conférence qui s'appelle « Histoire et témoignages des luttes à Bure de 1994 à aujourd'hui ». Alors, donc, pour tout de suite, je vous envoie la deuxième partie de l'émission de la semaine dernière sur l'Italie.
Alors, on peut peut-être passer à un autre chapitre. Je veux dire, parmi les choses qui ont été très populaires, c'est le fait de proposer par le gouvernement précédent, qui a contribué à son élection, le gouvernement actuel, j'entends. Il y a le fait de revenir sur la réforme Fornero des retraites, voilà, qui avait imposé brutalement un passage à 67 ans, du coup de 60 à 67 ans, le droit de partir à la retraite, qui a été d'une violence extrême.
Oui, ça a été d'une violence extrême, et on peut dire que c'est la loi la plus détestée par les Italiens.
Qui a été imposée par
C'était par le gouvernement Monti. Un gouvernement dit de techniciens, appuyé justement par le centre-gauche notamment, et le parti de Renzi, et qui est haï, mais alors, comme aucune autre loi, je pense, a été haï. Il faut se rappeler que cette loi, qui a été votée en 2011, a laissé sur le carreau quelques 300 000 personnes qui avaient déjà donné leur démission parce qu'ils étaient bons pour la retraite, donc ils avaient démissionné de leur administration, de la fonction publique, de leur boîte, etc. Et ils devaient partir à la retraite. Et bien, le couperet de la loi les a obligés à rester des années
sans
salaire et sans retraite. Ensuite, bon, ils ont trouvé des revenus, certains des revenus de substitution, parfois,
à
trouver un autre petit boulot, en retrouvant des subsides auprès des municipalités, parfois, en trouvant un accueil des familles pour ceux qui en avaient, et qui a provoqué une grande vague de suicides, dont peu se souviennent, mais ça a été extrêmement lourd d'un point de vue psychologique et matériel pour beaucoup, beaucoup de familles à l'époque.
Y compris pour les gens qui n'avaient pas encore demandé leur retraite, donc qui étaient toujours au boulot, mais qui devaient tout d'un coup, s'envoyer 7 ans de plus.
Oui, les gens qui n'avaient pas demandé leur retraite se sont retrouvés avec 7 ans de plus à tirer à un âge où t'en peux plus, quoi. Tu, en plus, tu savoures déjà le fait d'être à la retraite, de ne pas avoir à te farcir des situations extrêmement lourdes où les conditions de travail s'empirent de plus en plus, où tout devient de plus en plus précaire, etc. Voilà. Et cette loi devrait être démantelée en 5 ans et remplacée par ce qu'on appelle le niveau 100. Le niveau 100, ça veut dire qu'il faut avoir un âge d'environ 62-63 ans plus 42-43 ans de travail, de cotisation, et effectivement travailler. Et à partir de ce niveau, on pourra obtenir la retraite. Évidemment, il y a tout un tas d'entourloupes qui sont pour l'instant mises en pratique, qui fait qu'il y a un système de décote qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qui se produit en France encore aujourd'hui avec les réformes. Mais il faut reconnaître qu'en France, les réformes de retraite ont été effectuées avec beaucoup plus de gradualité. Ça a permis aux gens de s'habituer à l'idée qu'ils allaient devoir travailler plus longtemps, et il n'y a pas eu de réaction. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu non plus de réaction en Italie, il n'y a pas eu une heure de grève, il y a juste eu à ce moment-là des syndicats qui ont poussé des cris d'orfraie, qui ont fait des communiqués de presse, etc. Mais ils ne se sont pas du tout opposés à ce type de réforme qui venait d'un gouvernement justement de centre-gauche, et donc une réforme venant d'un gouvernement ami, on ne pouvait pas la refuser. Mais moi je dirais, ce qui est intéressant dans ces mesures dont on vient de parler, c'est-à-dire le revenu de citoyenneté, ce qu'on a appelé le décret dignité, dont je n'ai pas parlé.
Oui, mais c'est quoi ce décret dignité?
Le décret dignité est un décret, ça a été un cadeau un peu inespéré, inattendu, de la part du gouvernement 5 étoiles, en fait, des 5 étoiles, qui ont pénalisé l'utilisation des contrats précaires. Et ce qui fait que le patronat italien a tout de suite poussé des cris d'orfraie en disant « Ah non, vous voulez détruire l'économie italienne, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. » Mais le gouvernement est quand même passé, et ça va dans une direction qui est effectivement une direction opposée aux politiques d'austérité qui sont prônées par l'Union européenne. Et il y a ces trois éléments, c'est-à-dire le revenu de citoyenneté et les pensions de citoyenneté, le décret dignité qui met en cause l'utilisation massive des contrats précaires, et la remise en cause de la réforme des retraites pour revenir, semble-t-il, en 5 ans à 60 ou 61 ans. Ce qui avait poussé la communauté européenne à refuser un déficit prévu dans le budget 2019 de 2,4%. Il disait que c'était trop. Et il faut rappeler que le déficit accepté pour la France est d'environ 3,5%. Donc ça a été un jeu facile pour M. Salvini et M. Di Maio de gueuler contre l'Union européenne qui utilisait deux poids, deux mesures dans le cas de la France et de l'Italie. Or, il faut rappeler aussi que l'Italie, dans son budget annuel, depuis plusieurs années déjà, je ne me souviens plus depuis combien d'années, mais ça fait au moins une bonne dizaine d'années, a ce qu'on appelle une avance primaire dans le budget, c'est-à-dire entre les services des impôts et les différentes recettes. ils ont un surplus, et ce qui fait ce qui fait monter les déficits à 2%, comme ça a été accepté en dernier ressort par la par l'Union, ce n'est que le service de la dette. Et c'est un des rares pays européens qui se tient à cette règle qui était imposée par l'Union européenne, mais la plupart des pays, tout simplement, ne s'y tient pas.
Et ça, c'est quand même... une dette, je crois, qui est possédée beaucoup par les Italiens eux-mêmes.
Oui, non? Ça aussi...
Ça,
oui,
ça
oui,
change
oui.
aussi les données du problème, parce que l'Italie n'est pas forcément obligée d'aller chercher sur les marchés.
Marchés internationaux, ou en partie, oui. Ça, il faut bien dire qu'ils sont tributaires des marchés internationaux, mais à mesure relativement moins importante que la France, par exemple. Je me souviens plus exactement des niveaux de pourcentage, mais c'est quand même une dette qui est détenue par les ménages italiens. Et moi, je voudrais dire quand même une chose qui me semble assez importante pour ce qui concerne la lutte contre le gouvernement actuel. La question des à la fois de la difficulté dans la relation entre l'Italie, le gouvernement italien et l'Union européenne, avec la mise en place de ces mesures qui vont contre les règles de bonne gestion entre guillemets libérale de l'économie, et un certain nombre de déceptions que la politique des gouvernements du gouvernement qui est actuellement aux affaires pourrait produire, et notamment je pense à la déception par un certain nombre de promesses qui faisaient partie du programme du moment 5 étoiles.
Auxquelles ils ont déjà renoncé.
Et auxquelles ont déjà renoncé, de façon ouverte parfois, de façon moins ouverte.
Alors
pour
quoi,
d'autres,
par
en laissant tomber. Je les rappelle assez rapidement. Il y avait par exemple la promesse de la fermeture de l'usine de l'Ilva de Taranto.
L'Ilva de Taranto.
Oui, l'Ilva était un pôle, une des plus grosses usines pétrochimique qui avait pollué l'ensemble du territoire.
C'est dans les Pouilles.
Dans les Pouilles. Et il y a eu pas mal de manifestations où la bonne partie de la population s'était impliquée pour demander à la fois la fermeture des installations polluantes et qui empoisonnaient la population. Il y a un taux de cancer effroyable. Et de l'autre côté, l'assainissement des environs. Or, il y a eu un accord récent entre syndicats et patronat qui a sauvé la majorité des emplois, mais qui a mécontenté la population et notamment les défenseurs de l'environnement, parce que c'est un chapitre, c'est-à-dire dépollution et assainissement, qui n'est surtout pas pris en compte. Donc, ça, on dirait...
L'usine va continuer à fonctionner ?
L'usine devrait continuer à fonctionner, dans les conditions assez détestables qui ont amené aux luttes contre sa pollution. Ensuite, il y avait le projet de gazoduc adriatique qui vient des pays de l'Est.
Qui devrait passer où ?
Qui devrait passer à travers la mer Adriatique, toucher les côtes adriatiques à la hauteur des Abruzzes et Molise, si je me souviens, et des Marches. Et au moment où le moment 5 étoiles s'est rendu compte qu'il y aurait eu une forte pénalité à payer, et ben finalement...
Pénalité pour
Pénalité pour les pour l'État italien s'ils s'opposaient, s'ils acceptaient l'arrêt de ce projet.
Et ça, c'était un arrêt qui était demandé par qui ?
Par les défenseurs de l'environnement d'abord, qui avait été, en quelque part, récupéré dans le programme du Mouvement 5 étoiles.
Ah, donc c'était un programme électoral.
Un programme électoral.
L'arrêt des
travaux de ce gazoduc. Eh bien, ça, finalement, on a laissé tomber.
Donc ça va se faire ?
Normalement, ça devrait se faire. Ensuite, on ne sait pas. La TAV aussi.
La TAV.
La Turin-Lyon. Le TGV Lyon-Turin qui avait été en bonne partie repris par le Mouvement 5 étoiles.
L'arrêt des travaux, l'arrêt du projet.
Bon, ça, on ne sait pas encore. Bon, ça serait vraiment trop gros s'il renonçait à s'y opposer. Mais pour l'instant, tout ça est en cours, est en négociation. On ne sait pas trop bien comment les choses vont se goupiller.
Il faut aussi dire qu'il y avait beaucoup de militants de 5 étoiles qui étaient eux-mêmes impliqués dans la lutte directement.
Et des maires 5 étoiles dans la vallée, jusqu'à la maire de Turin qui avait quand même appuyé...
La maire de Turin qui est un maire 5 étoiles.
Qui est une maire 5 étoiles. Ensuite, il y avait la négociation sur la valeur du diplôme des instituts. Des instituteurs. Il s'agit surtout de femmes. Il y en avait quelques 55 000 qui demandaient une valeur, habilitante, qui habilite à l'enseignement de leur diplôme. Et il semblerait qu'elles devront toujours passer par un concours supplémentaire en plus du diplôme. Et il y a aussi le troisième col entre le Piémont et la Ligurie. Là aussi, il y avait un projet.
Un projet de tunnel, tu veux
dire ? Un projet de tunnel.
Le franchissement du col.
Le franchissement du col, oui. Bon, il y a déjà deux passages qui fonctionnent et qui, selon certains, étaient saturés. Donc, il fallait un troisième passage. C'est encore une grande œuvre inutile et imposée au mépris des défenseurs de l'environnement. C'est un ensemble de luttes locales, évidemment, mais qui risque de laisser des traces à plusieurs endroits.
Dans la mesure où ils sont en train de renoncer à toutes ces...
À tout arrêt de ces travaux qui étaient totalement inutiles.
Et tu penses que ça, c'est sous la pression dû au fait de faire alliance pour se maintenir au gouvernement avec la droite?
En bonne partie, c'est sans doute ça. Ensuite, il y a la promesse de baisser, de réduire les dépenses militaires. Et là, non seulement elles ne sont pas réduites, mais il y a toujours le projet et l'achat des avions F-35 qui devait renouveler la force de frappe italienne, et qui sont très chers et qui sont très contestés et qui seront achetés aux États-Unis.
C'est décidé.
C'était les gouvernements précédents l'avaient décidé. Le Mouvement 5 étoiles avait dit si on arrive au gouvernement on va arrêter tout ça parce que c'est un gaspillage inouï. Et bien finalement le gaspillage continue parce que ces avions continuent d'être toujours dans les programmes d'achat de l'armée de l'air italienne. Ensuite il y avait une promesse de réduction de ce qu'on appelait les pensions dorées de la haute bureaucratie ou du patronat. Finalement, ça aussi, ça n'aura pas lieu, apparemment.
Donc tout un tas de renoncements.
Tout un tas de renoncements qui ont une valeur parfois symbolique. C'est un peu comme l'ISF en France. L'histoire des pensions dorées est un vrai serpent de mer. Tous les gouvernements dans les années précédentes, surtout les gouvernements qui se prétendaient de gauche, avaient promis de se battre contre ce fléau. Il n'y en a aucun qui l'a fait. et le gouvernement 5 étoiles, la participation au gouvernement du mouvement 5 étoiles n'a pas changé la donne de ce point de vue-là. À tout ça, qui touche quand même relativement des milieux, surtout militants ou des luttes locales, il faut ajouter l'incapacité qu'ils ont eue à remettre bon ordre dans la ville de Rome, dont ils détiennent la municipalité depuis
deux ans déjà. Donc on parle toujours du mouvement 5 étoiles.
Du mouvement 5 étoiles. Et notamment, certaines questions qui pourrissent la vie quotidienne des Romains, c'est-à-dire la question des ordures ménagères, malgré tous les beaux discours sur le fait qu'ils auraient arrêté les incinérateurs et mis en place une collecte sélective des biodéchets, ils n'ont pas réussi à le faire. Le trafic de la ville qui devient totalement ingérable, surtout parce que c'est un trafic de surface. Il n'y a pas de véritable métropolitaine à Rome. Il y a quelques stations de métro, mais ce n'est pas grand-chose. Et ensuite, la bureaucratie. La bureaucratie, il y a une bureaucratie pléthorique et inefficace que le mouvement 5 étoiles avait promis de nettoyer. Eh bien, ils ne vont pas le faire.
Bon.
Tout ça, il faudra voir dans les prochaines élections européennes et régionales, notamment du Piémont, si les déceptions seront plus fortes que les éléments de satisfaction apportés par les uns les autres, dans un contexte où les sondages donnent une ascension assez importante de la Ligue du Nord et une baisse relative et relativement importante du mouvement 5 étoiles dès maintenant. Ouais.
Bon, moi je voudrais juste faire un tout petit commentaire final. Je veux dire, quand même, tout ce que tu nous décris s'inscrit dans un cadre où les luttes sociales sont quand même à très bas niveau, hein, d'une manière générale. Et donc, effectivement, le mouvement 5 étoiles est porteur de quelque chose, des espérances qui n'ont pas été, qui ne sont pas portées par les luttes au niveau. Et c'est là où ça ouvre beaucoup d'espace au jeu politicien, au jeu d'alliance entre cette droite et cette gauche pour essayer de jouer les choses à un niveau électoral. Donc on peut quand même souhaiter fondamentalement qu'il y ait une réviviscence de la lutte en Italie. Est-ce que tu en vois une
C'est que j'ai vu dans mon petit voyage le mois dernier. Il y a une persistance de ce qu'on appelle le syndicalisme alternatif, le syndicalisme de base, mais on ne peut pas dire que ça prend une allure de masse. Ils ont fait des grèves, mais avec des résultats assez modestes. Et de l'autre côté, il y a deux mouvements qui sont assez importants, mais peut-être pas au niveau de réussir à les mettre en cause les équilibres nationaux au gouvernement. C'est d'un côté le mouvement féministe et de l'autre côté le mouvement qui reste quand même local contre la Lyon-Turin, mais qui a
le
quand
TGV
même
Lyon-Turin.
Le TGV Lyon-Turin, qui a quand même une série de d'appuis, de comités locaux, etc., au niveau national, et qui provoque des remous et des tensions entre les forces qui sont au gouvernement.
Bon, nous allons en rester là. Merci Gianni pour cet effort.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la rilacciere precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governanti, cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Oh, io amore mio non capisco perché cerco bene e fermi un posto al mare e non c'è. Svalutation,
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 svalutation.
Con il salario di un mese compri solo un caffè. I stadi sono graviti ma la grana è dove? Svalutation,
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 svalutation.
Ma siamo in crisi, ma senza andare là. L'America è qua, in automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno tanti, si sa che scontrescio, che scontrescio. Con la nuova banca e dei sequestri che c'è, ti temi il valore della vita, quante svalutescio. Perché tu vuoi fare il gallo, poi fa l'uovo per me. Sulle station,
sulle station,
sulle station,
sulle station.
Nessuno che si insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane. Perché assassination,
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 assassination.
Ma quest'Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensa a te, pensa anche un po' per me.
Alors là, on va attaquer la deuxième partie de l'émission, donc qui est consacrée à Bure. Et donc, on va retrouver quelque chose qu'on vous a passé il y a quelques temps, deux personnes, Gaspard D'Alliance et Andrea Fiori, qui ont écrit un livre qui s'appelle Bure, la bataille du nucléaire, et donc on va les retrouver, donc ça va nous servir pour remémorer la mémoire par rapport à la lutte de Bure. Voilà, allez, on y va.
Donc avant Bure, il y a une longue histoire, c'est-à-dire ça surgit pas du jour au lendemain en Meuse, l'État se dit pas en 94 finalement si on allait foutre nos déchets dans le sous-sol entre la Meuse et la Haute-Marne, si on appelait Gérard Longuet Non, ils ne se disent pas ça directement. Il y a une histoire de ça. Cette histoire, elle est ancienne. Bon, on va faire rapide. Il y a plein de bons livres qui ont été écrits sur l'histoire, la contre-histoire de l'énergie nucléaire. Je vous en recommande un qui s'appelle Golfek, le nucléaire, qui est paru en 99, qui est un gros pavé, qui résume l'histoire des luttes nucléaires, qui est avec une bibliographie exceptionnelle. Il est un peu dans la bibliothèque. Celles et ceux qui veulent bosser ça, c'est vraiment des bons trucs. On trouve plein de choses sur Internet. L'histoire de la question des déchets nucléaires. On le sait, depuis le développement de l'énergie nucléaire, depuis les premières applications des propriétés de la radioactivité au début du XXe, à la première industrie du radium, à l'époque où on avait des ouvrières qui peignaient des aiguilles phosphorescentes jusqu'à Marie Curie qui est morte d'un cancer, etc. En fait, on le savait depuis le début qu'évidemment, le nucléaire et la radioactivité, c'était très dangereux. A priori, ça pouvait déclencher des cancers et tuer des gens. Et qu'a priori, ça générait tout un tas de sous-produits dont il fallait se débarrasser. Même dans les laboratoires, ça posait des questions. Qu'à l'époque, plutôt, on le mettait à fond du jardin, on le foutait dans la mer et dans les rivières. Après, on a l'industrialisation de ça avec la Seconde Guerre mondiale, donc, et le projet Manhattan aux États-Unis, qui développe en 3 ans, avec une concentration de capitaux absolument dingue, et de scientifiques. On fout ensemble des ingénieurs, des scientifiques, des militaires, des industriels, et on leur dit « développez la bombe ». Ça, c'est le projet Manhattan qui amène 45, Hiroshima, Nagasaki, destruction totale, etc. Là, à ce moment-là, il commence à être un petit peu évident pour la plupart des gens. on sait très bien qu'en fait, c'est très dangereux, ça tue les gens, mais surtout, on sait déjà pas quoi faire de tous ces déchets. Et ça va être la même chose, en fait. Depuis 70 ans d'histoire industrielle et 100 ans d'histoire de cette technique, de cette technologie, on n'a jamais su quoi faire des sous. Enfin, non seulement on sait très bien que ça tue les gens dans son application concrète, mais les sous-produits de la mine, c'est-à-dire du moment où on extrait l'uranium à l'irradiation du combustible, on n'a jamais su quoi faire des déchets. Jamais. Ça a toujours été. Enfin, jamais on n'a su quoi faire. Voilà. Donc, bure. Alors, dans les années 60, on trouve des connards en cravate. Boris Pregel, on le met un peu dans le livre. On trouve des vidéos dans un très bon film qui s'appelle Plus belle la vie, qui était fait en préparation du camp dont je vous ai parlé en 2015. Boris, on voit cette image, là, cette capture d'écran. C'est un mec qui s'appelle Boris Pregel, qui est président de l'Académie des sciences de New York. A priori, quelqu'un qui a une forme de légitimité à s'exprimer. C'est très ORTF, quoi. C'est le mec en cravate, on est dans les années 60, qui est là, interviewé à l'ORTF. Oui, donc le nucléaire se développe, mais alors certes, il y a le problème des déchets, mais aucun problème d'ingénieur n'est insoluble. On trouvera bien une solution. Donc là, on est en 61. Donc 57 ans plus tard, on n'a toujours pas trouvé de solution. Entre-temps, ils ont essayé de les foutre dans la mer. Ils les ont foutu dans la mer dans les années 50, les années 60, les années 70, d'abord sous forme liquide. Après, ils ont foutu en dessus et ils partaient en bateau, plus ou moins loin des côtes, pour foutre les fûts dans la mer. Donc, l'Angleterre, les Royaumes-Unis, c'est particulièrement spécialisé dans le domaine, mais tout le monde s'y est mis. La France n'est pas en reste. On a un certain nombre de littoraux qui sont plus ou moins nucléarisés à une distance plus ou moins proche. On en a au large de la Somalie aussi. On trouve un documentaire assez horrifiant sur les conséquences des largages sauvages de déchets nucléaires au large des côtes somaliennes. Après tout, bon, voilà, on est... on est quand même dans cette logique-là, quoi. Ça, c'est les années 70. Donc, ça râle, il y a des luttes, les gens commencent à se bouger, des luttes populaires, des premières associations écologistes, etc., qui luttent pour le littoral, des vidéos un peu choc de Greenpeace notamment, qu'on peut retrouver dans des documentaires, des bons documentaires aussi sur Arte qui retracent cette histoire-là, qui s'appelle Déchets, le cauchemar du nucléaire. Ça, c'est les années 70. Et les années 80, du coup, là, les nucléocrates se disent bon, quand même, il va falloir qu'on trouve un truc. Hein, là ça fait voilà 10-20 ans qu'on développe le truc en mode industriel, qu'on a réussi à... J'ai parlé du nucléaire militaire parce que l'histoire du nucléaire elle est d'abord militaire, après il y a des applications civiles. Le lobby se déporte sur la question de l'énergie, de l'électricité. Il va trouver des débouchés, il va créer des débouchés pour remplir, à répondre à la production d'électricité qui va se développer. Mais c'est d'abord une histoire évidemment militaire liée à des logiques géopolitiques, de raison d'État, des logiques de secret, des logiques d'omerta, des logiques de puissance, mais avant tout dans ces enjeux-là. Et en aucun cas des enjeux de répondre à des besoins énergétiques et électriques. Donc les années 80, bon, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là, c'est la foire aux idées à la con. Et si on les envoyait dans le soleil ? Non, peut-être pas quand même, c'est un peu dangereux. Et si on les envoyait par fusée ? Je dis dans le soleil, c'est, on les envoie en orbite, enfin voilà... Si on les mettait dans des fosses sous-marines, vous savez, là où il y a les plaques de subduction, les plaques tectoniques qui sont... Si on les mettait dans la fosse des Mariannes, là, au Japon, à 11 000 mètres, on les met, on les largue, et hop, ils s'enfoncent dans le creux de la Terre. Ouais, il y a eu plein d'idées, un peu comme ça, qu'on peut être tout plus dingos les unes que les autres. Et à un moment, ils se sont dit, non, vraiment, on va les enfouir. On va les enfouir à 500 mètres sous Terre. Dans des couches de roche, des couches géologiques, et c'est la roche, donc l'argile, le sel et le granit, globalement, c'est la roche qui va servir de confinement, de sarcophage éternel pour des centaines de milliers d'années. Voilà. Parce qu'on parle bien des déchets les plus radioactifs, hein, des déchets qu'on sort en France, 99,9% de la radioactivité. Donc en 80, il y a un consensus comme ça de la part au niveau international, tiré par la France, hein, parce que pour eux, parce que j'anticipe tout de suite la question, mais on en fait quoi déjà ? Parce que c'est une question importante, mais en fait, pour eux, c'est absolument pas une question. Comment dire ? Trouver cette solution, enfin, ce projet-là d'enfouir les déchets dans la couche géologique, c'est pas du tout une manière de gérer le problème, de répondre au problème. Eux, ils disent ça, mais en fait, c'est une manière pour eux de prétendre boucler le cycle, le fameux cycle du combustible, de prétendre boucler la boucle, c'est-à-dire de la mine jusqu'à la centrale, jusqu'à l'irradiation du combustible, on gère les déchets, il n'y a pas de souci, la boucle est bouclée. Et du coup, de pouvoir continuer de relancer indéfiniment cette technologie-là, de pouvoir que la France puisse continuer de vendre des EPR à l'étranger, même si plus personne n'en achète, qu'on puisse continuer de construire des projets de surgénérateurs complètement dingues. Enfin, en gros, c'est un pur intérêt d'un lobby et d'une industrie à persister dans son être malfaisant qui conduit à choisir l'option de l'enfouissement géologique. Donc, l'option de l'enfouissement géologique, c'est quoi ? On arrive au projet qu'ils veulent faire à Bure et qu'ils voulaient faire aussi dans les années 80. C'est, je l'ai dit, 500 mètres sous terre, dans une couche, soit argile, soit granit, soit sel. En France, c'est l'argile, dans d'autres pays, c'est le granit ou le sel. On va foutre 265 km de galeries, ce qu'on appelle des alvéoles. On va les barder, les capteurs, etc. On va foutre, on les relier à la surface par deux énormes tunnels, puis de 11 mètres de large, une cheminée gigantesque de ventilation, pour ventiler le dégagement de chaleur, pour ventiler le dégagement d'hydrogène, parce qu'il y a de l'eau, il y a du fer, il y a de la terre, enfin, il y a des réactions chimiques qui vont se produire dans les alvéoles. On va ventiler ça. On va mettre là-dedans 85 000 mètres cubes des pires déchets, qui peuvent durer, dont la durée de vie peut aller de 100 à plusieurs centaines de milliers d'années. Avec deux zones en surface, là, qui est à peu près 600 hectares en surface, pour une zone pour acheminer les déchets, en gros, quoi, 300 hectares, et une zone avec les fameuses cheminées de ventilation qui en font 300 autres, et ça, c'est au-dessus du bois. C'est ça qu'ils veulent faire. Et on dit, les travaux vont durer 135 ans, à peu près. 135 ans de travaux, et on vous garantit un risque zéro pendant 100 000 ans. Le but, c'est de confiner les déchets pendant 100 000 ans, avant l'inéluctable fuite des radioéléments, des isotopes radioactifs, à la surface. C'est-à-dire qu'on dit pas, c'est pas du tout les galeries en elles-mêmes, c'est pas les colis, c'est pas le verre qui entoure les déchets. C'est le pari que la couche d'argile, qui est entre moins 500 et moins 400 à peu près, va retenir la diffusion, parce que c'est une couche, on dit, étanche, imperméable, peu friable, voilà, très ancienne. C'est ça le pari. Le pari scientifique et technique, c'est celui-là. Et dans les années... là, je vous ai dit des chiffres, enfin, pareil, ça plane un peu dans l'air... En fait, c'est des chiffres, il faut se les répéter plusieurs fois dans la tête, mais en fait, on réalise pas ce que ça veut dire. C'est aussi pour ça qu'on a voulu écrire ce livre, je l'ai pas dit au début. Ce livre, c'est, on revient vite fait sur ces questions de chiffres, d'expertise, de contre-expertise technique, on parle vite fait du projet. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que pour que les gens comprennent, il fallait parler des gens. Il fallait parler des conséquences qu'un projet comme ça, il a sur la vie des gens, sur la vie d'un territoire, sur la possibilité de vivre au pays. On peut assommer les gens avec des chiffres, on peut assommer les gens avec des réflexions sur les risques, enfin, avec toute l'angoisse. Enfin, n'importe quelle lutte antinucléaire, elle tourne un peu à l'angoisse. On va parler des dangers que c'est, on sait que c'est là. Mais en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que pour réussir à lutter et faire quelque chose, ça suffit pas. L'angoisse et la peur ne peut pas être suffisamment un moteur. Il faut trouver de l'empathie, enfin, il faut être en empathie avec les gens. Enfin, ça passe par un lien social, ça passe par. Et c'est de ça dont on a voulu aussi parler dans le livre, en parlant des conséquences sociales et territoriales, quoi, de ces grands chiffres, en fait. Et donc, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous ai dit un peu le topo du projet. Après, on peut creuser sur les types de déchets, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut dire. Avant d'arriver à Bure en 94, pourquoi ils arrivent à Bure ? C'est que avant, et c'est ça qui est important, ça, on en parle un peu dans le livre, dans les années de 87 à 90, avant, ils se font botter le cul avec une extrême détermination dans plusieurs endroits en France, plein de campagnes. Et c'est ce qu'on dit, c'est que nous, on dit, mais c'est drôle, il y a un espèce de panthéon comme ça, des luttes écologistes antinucléaires, avec des grands noms, comme ça qu'on connaît, quand on voilà, le Larzac, le Plogoff, un peu Crémalville, où il y a eu des énormes manifs, et tragiquement aussi une personne qui a été tuée par la police en 77, Vital Michel. Et il y a ces noms-là qui correspondent un peu au grand récit, au mythe quoi, des luttes écolo-antinucléaires. Et pourtant, on ne connaît pas les luttes à Neuvy-Bouin, Segré, Bourdiré, on ne connaît pas. Et pourtant, dans les années 87 et 90, c'est des campagnes qui vont soulever en criant « Andra dégage », en faisant des manifs à 15 000 personnes, en sortant des tracteurs, des dizaines, des centaines de tracteurs qui vont se blinder, foutre des grilles pour se protéger des gaz et des grenades lacrymo lancées par les flics. C'est des gens qui vont aller occuper des sites, même pendant le Noël, faire des veillées, etc. En gros, c'est des campagnes qui vont se rebeller parce que l'Andra, elle arrive à cette époque-là, et c'est dans ces zones-là qu'elle cherche à faire sa poubelle. À l'époque, elle n'est pas du tout à Bure. Elle est dans d'autres campagnes, qui sont aussi des campagnes rurales, etc. Sauf que l'Andra, elle se fait sévèrement botter le cul. Et pourquoi est-ce qu'elle se fait botter le cul ? Donc voilà, ça, on en parle un peu dans le livre. On peut trouver, je vous recommande, une très bonne BD qui s'appelle Village Toxique, qui parle de la lutte à Neuvy-Bouin, dans les Deux-Sèvres, en Gâtine. C'est super. L'Andra, elle se fait botter le cul sévère, quoi. C'est genre, ces locaux, ils vont être murés, ou au goudron plume, saccagés à la hache, enfin, c'est. Les gens, ils y vont fort, quoi. C'est des luttes... On trouve dans ces luttes... On connaît pas trop ces luttes pour plein de raisons, mais aussi parce que c'est... il y avait pas le côté, c'était pas très lisible. Autant le Larzac, on voit bien, c'est des paysans en lutte un peu alternatifs. Plogoff, c'est les habitants du cru qui sont poussés par les gens. Là, on ne sait pas trop, c'était à la fois des assauts écolos des années 80, etc. Et en même temps, le chasseur du cru, plus ou moins conservateur, qui va sortir son tromblon pour tirer sur les hélicos, mais qui, en fait, il veut pas des déchets chez lui, mais sinon, il s'en fout, quoi. Enfin, il y avait un peu une diversité comme ça de point de vue. Mais déjà, à l'époque, il y avait une coordination. Il y avait une coordination antinucléaire qui disait ni ici, ni ailleurs, ni autrement. Mais il y avait, comme ça, une hétérogénéité de la lutte, mais c'était une lutte très défensive. Bon, enfin voilà, il y a plein de raisons qui fait qu'on connaît pas trop. Et pourtant, l'Andra est parti. L'Andra, de 87 à 90, dans ses campagnes, il y a des levées de boucliers. Et en 90, donc c'est Michel Rocard qui décrète un moratoire. Un moratoire en disant, bon, là, ça commence à sentir un peu le déchet pas frais, quoi. C'est là, on se retrouve avec des gens. Moi, j'aime bien imaginer les gens comme ça dans un bureau un peu inquiet avec écouter les nouvelles du terrain. Je vois bien une scène où on se retrouve avec quelqu'un qui allait sur le terrain ou un député du terrain qui dit mais écoutez là on contrôle plus rien, hier ils ont fait une manif, ils se sont mis à brûler 2000 personnes qui ont brûlé leur carte électorale, ça s'est vraiment passé, c'est à dire qu'on s'est retrouvé à des niveaux de radicalité comme ça, on se retrouvait avec 2000 personnes qui en fait brûlaient collectivement leur carte électorale. Là, quand on est au pouvoir, on se dit merde, non, là, il y a un truc qui va pas dans notre méthodologie, quoi. Il va falloir la repenser. Donc, moratoire. Et pendant un an, la mission qui va être confiée à un député qui s'appelle Christian Bataille, ça va être, en gros, c'est écrit dans un rapport noir sur blanc, c'est écrit, ils disent eux-mêmes, le critère principal pour décider d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires, un truc qui va définir notre choix, le critère. Ça ne va pas être le type de confinement géologique, ça va pas être le type de roche, l'argile, le granit, le sel et la capacité de rétention des radioléas. Ça va être la capacité des populations à accepter un tel projet. Ça, c'est écrit noir sur blanc, des choses qu'on lit dans les rapports parlementaires qui disent en fait non, mais ce qu'il faut, c'est que les gens soient capables d'accepter. On s'en fout, au fond. Et donc, vous comprenez, je dis ça, c'est important de comprendre ça parce que Bure et tout ce que j'ai raconté là, sur lequel je ne reviendrai pas forcément de toutes les techniques d'acceptation. C'est ce moment-là qu'en fait, il y a une mutation dans la logique de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que l'Andra, à cette époque-là, l'Andra, c'est un département, elle est complètement liée au CEA, c'est un département du CEA. Le CEA, c'est, à cette époque, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Maintenant, ça s'appelle énergie atomique et énergie alternative. On aura le temps d'en reparler, mais c'est le greenwashing nucléaire. Vous voyez, donc l'Andra, elle est intimement reliée. Le CEA, c'est le truc qui a développé la bombe atomique après la Seconde Guerre mondiale, de manière complètement... opaque, indépendante du pouvoir parlementaire et de la démocratie entre guillemets représentative. Donc l'Andra, en fait, c'est un bébé du nucléaire militaire. L'Andra, quand il débarque dans les bleds dont j'ai parlé en 87, c'est exactement la même chose que les connards qui débarquent faire des essais nucléaires en 60 dans le désert algérien, quoi, ou en Polynésie, avec quand même un peu plus de forme, parce que là on n'est pas dans les anciennes colonies, on est quand même en métropole. Mais c'est la même logique, c'est une logique militaire qui débarque en disant. Oui, bon, on va pouvoir mettre une poubelle ici, et puis, enfin, vous voyez, c'est une logique descendante. Sauf que la logique descendante, elle se heurte à des résistances. Des résistances que, du coup, les années 90, c'est le moment où le nucléaire commence à faire sa mue méthodologique, idéologique. Et il commence à développer des dispositifs d'acceptabilité sociale. Ouais. Du coup, en 91, l'Andra, elle est indépendante. Elle devient indépendante du CEA. Elle devient une agence à part entière. En 80, donc, déjà, on l'éloigne d'une logique militaire. Nous, ce qu'on dit pour faire comprendre aux gens, c'est que c'est plus tellement des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques qui vont la peupler, qu'elle va aussi embaucher des communicants, des sociologues, des anthropologues, des gens qui sont capables de sentir, des gens qui sont capables de raisonner en politicien, pas des techniciens qui débarquent en boom. 91, c'est aussi, à l'issue du moratoire d'un an, une loi qui s'appelle la loi Bataille, qui, bon, bref, est votée, c'est la première fois que le Parlement a amené à se prononcer sur l'enjeu du nucléaire, donc c'est aussi une manière de répondre aux critiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Même les députés à l'époque qui s'opposent, dans les années 87, certains des députés disent « Ah non, ça va pas ». Donc, pour donner un os à ronger aux députés, ils font voter une loi au Parlement. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit, en fait, tout ce qu'on vit depuis 25 ans, depuis même plus, 27 ans à Bure, découle, en fait, de ce moment-là. La loi, elle dit, on arrête de parler de centre d'enfouissement, c'est anxiogène et ça braque les gens, on va parler de labo géologique. Donc en fait, on va plus du tout débarquer chez les gens en disant « Hey, vous ne voulez pas qu'on construise une poubelle chez vous ?» On va débarquer chez les gens en disant « Qu'est-ce que vous pensez d'un laboratoire ?» On va faire des études pendant 15 ans. Vous inquiétez pas, c'est que des scientifiques, des gens très recommandables. La science, ça ne peut pas faire de mal. Et puis ça ne préjuge absolument pas de la vie. Enfin, si dans 15 ans, les essais ne sont pas concluants, promis, on repart. C'est ça qui est dit noir sur blanc dans la loi. C'est des laboratoires dans l'argile, le sel et le granit, 15 ans de période d'essai, et on en repart en 2006. Ça, c'est le premier point fondamental. Et le deuxième point, c'est les thunes. C'est compensation financière. Donc là, je vous ai parlé, il y a du coup, depuis 25 ans, presque 1 milliard était arrosé. Et le dernier point, on pourra peut-être reparler tout à l'heure, c'est justement pour dire qu'ils n'arrivent pas avec leurs gros sabots, ils disent « Bon, on fait un labo, on donne du fric. » Et aussi, attendez, mais n'allez pas croire qu'on a déjà décidé du stockage géologique. Attendez, mais nous, on est ouvert. Donc là, ils disent « En fait, on va faire un programme de recherche sur 3 options techniques. » Donc la première, c'est le stockage géologique, la religion du stockage géologique qui se développe depuis les années 80. Mais les deux autres, dont on n'entend jamais parler, qui, pour gérer, en tout cas, faire un palliatif, on va dire, à cette grosse merde qui sont les déchets, qui sont l'entreposage, qu'on appelle l'entreposage pérenne, surface ou sous-surface. En gros, ça veut dire laisser les déchets soit en surface, soit à 50 mètres sous terre, pas trop profond, avec une capacité de surveillance pour pouvoir aller les chercher si ça merde, sans les enfouir à jamais, et tout pouvoir les gérer. Et continuer de chercher d'autres techniques pour éventuellement réduire la nocivité. La troisième technique dont il parle, ça s'appelle la séparation transmutation. En gros, c'est tu prends tes types de matières extrêmement radioactives, dans la durée de vie, plusieurs dizaines de milliers d'années, qui font des rayonnements absolument terribles, et en laboratoire, par X réaction, tu vas réussir à la transformer en un autre élément un peu moins dangereux. Et ça, ils ne savent pas le faire. Mais c'est en tout cas pour dire qu'à l'époque, dans la loi, on parle de 3 options. Vous voyez ? On parle de ces 3 options-là. Mais en fait, les 2 autres ne seront jamais. Il n'y aura jamais vraiment des recherches faites là-dessus. Il n'y aura jamais vraiment quelque chose. Enfin, voilà, ça sera toujours laissé complètement à l'abandon, parce que le but ultime, c'est de creuser ce trou pour pérenniser la filière. Parce que le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les 85 600 mètres cubes de déchets ultimes qu'ils veulent mettre, l'argument un peu massue que je réponds à chaque fois que les gens disent « mais oui, les déchets, ils sont là », c'est que sur les 85 000 déchets, la moitié ne sont pas encore produits. Vous voyez la logique. C'est pas un truc de gestion. C'est pas pour ou contre. C'est pas on répond au problème. C'est on pérennise l'ordre nucléaire, on pérennise la construction centrale, on pérennise le recours à cette énergie-là. On pérennise le recours à cette technique, à cette technologie-là. Donc, pourquoi j'ai fait ce détour ? Ce détour, il est important. Et après, on peut parler de commencer maintenant. C'est qu'on en est toujours là, quelque part, en fait. Il y a une mutation dans les années 91 du fait des luttes. C'est parce qu'il y a eu des luttes qui les ont bousculées. Et c'est un imaginaire de lutte qu'il faut se réapproprier en se disant qu'il y a des gens qui ont gagné dans d'autres territoires, qui les ont bousculées, et donc qui se sont réformés pour pouvoir se faire accepter. Avec toutes les techniques qui sont un peu décrites là, et qui sont extrêmement perverses, pernicieuses et plus ou moins efficaces. Il y a ces luttes-là qui ont existé, et il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres en 99. Il y a eu le laboratoire qu'ils ont construit à Bure dans les années 90, mais ils cherchaient d'autres zones dans le granit. Ils cherchaient à construire un laboratoire dans le granit. En 99, ils sont aussi allés prospecter. Et là, ils se sont fait à nouveau botter les culs avec une forme de panache, c'est-à-dire en Mayenne. Ils se sont retrouvés en Mayenne. Ça, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le livre, mais quand on parle au niveau du temps historique, voilà, il y a eu des victoires. En fait, Bure, quelque part, c'est le résultat de toutes les défaites qu'on a infligées partout ailleurs aux nucléocrates qui veulent foutre ça dans une poubelle. Dans les campagnes dont j'ai parlé, sur la mission Granit en 99, en 2007-2008, quand ils cherchaient à enfouir des déchets qu'on appelle faible activité humaine, vous voyez ? Donc à chaque fois qu'il y a une capacité de réaction, etc. Et du coup, il y avait, oui, à la base à côté de Bure, il devait y en avoir 2 autres. Un en Vienne à Chapelle-Bâton en granit, et un autre dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze. Et là, les vignerons sont descendus hyper vénères, et l'endroit est reparti la caisse de la porte. Donc on s'est retrouvé avec Bure, avec uniquement Bure. Et là, pour brosser un peu le tableau rapidement, en gros, qu'est-ce que c'est alors ? Nous, c'est pareil, là, ça fait 2-3 ans que moi je m'implique là-bas, et on est un certain nombre dans ce cas-là. Enfin, après, il y a des gens comme copains depuis un peu plus, enfin, depuis quelques années. Il y a des générations comme ça autour de la maison de résistance qui font que ça a redonné un souffle, une autre couleur à la lutte, et puis des gens qui arrivent, les comités, etc. Mais en gros, Bure, ils arrivent en 94, etc. Dans les paroles, dans les trucs qui moi m'ont touché aussi, que j'ai envie de vous partager, parce que c'est des choses, des paroles que quand moi je les ai entendues, j'ai découvert ça il y a 3 ans, je me suis dit, ah mais il se passe, c'est quand même, ça, il faut enfin, il faut qu'on en parle, il faut que les gens soient au courant. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour un peu expliquer l'histoire de la lutte avant, parce que moi j'en ai compris, parce qu'on m'a transmis, parce que je l'ai pas vécu, mais on me l'a transmis. Donc moi, ce qu'on m'a transmis de l'histoire de la lutte, les grandes phases, en gros, on a la phase 94-99, ils veulent construire le labo. Ils font des prospections autour de Bure, enfin, en Meuse-Haute-Marne, pour savoir exactement. Très vite, ça se décompte à Bure. C'est des années où il y a des collectifs qui se créent. Dans le département Haute-Marne, Meuse, Vosges, Meurthe-et-Moselle, avec des noms différents. En Meuse, en Haute-Marne, t'as tout un, particulièrement en Meuse, t'as tout un réseau de vigilance qui se met en place dans les villages, avec des chaînes téléphoniques. Les premières années, les gens vont faire des sit-ins devant le conseil général, vont bloquer la gare de Bar-le-Duc, et des manifs à Verdun, et des manifs locales, avec quoi, 1000, 2000, 3000 personnes, donc ça bouge quand même. On peut pas dire que les gens font pas des choses, mais c'est pas aussi radical, on va dire, c'est pas aussi massif que dans les autres campagnes. Pour plein de raisons. Pas énormément de raisons. Et arrive ce moment en 99, où là, ça fait déjà 5 ans, 6 ans que les gens luttent, et ils luttent dans un contexte où il y a une coordination nationale. Il y a une coordination nationale contre les projets d'enfouissement à l'époque, qui est liée à tous les autres projets dont j'ai parlé avant. Les gens, ils luttent pas tout seuls. Ils sont pas, ils sont appuyés, épaulés par plein de gens qui leur disent, il y a eu ça chez nous, vous faites pas avoir. Enfin, il y a quand même un espèce de transmission qui, maintenant, est à réactiver aujourd'hui. En 99, il y a une anecdote assez dingue que m'a raconté Claude, qui est un militant historique de Léodra. C'est l'anecdote qui tue. Tu rigoles parce que c'est son anecdote qui permet de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, enfin, quelle est la couleur un peu de ce qui se passe à Bure. Claude, il dit, moi je l'ai rencontré la première fois comme ça en 2015, je débarquais pour avant le campement, on était à la gare, je faisais un repas comme ça, un petit apéro avec le soleil, comme ça peut être très beau l'été. Et je découvre ce type là, Claude qui a la cinquantaine, qui est là, et je me rends compte que ça fait 20 ans que lui il lutte, et lui il me dit, je dis, bah, comment c'est 20 ans, putain, c'est fou, il faut avoir du ressort, machin. Et là, tu sais, la lutte à Bure, ça m'a transformé de petit maire républicain convaincu, enfin de petit maire un peu voilà, dans ma commune convaincu, en anarchiste révolutionnaire. Alors, il dit ça en rigolant un peu, mais. Du coup, j'essaie de comprendre. Il dit, ça m'a transformé de maire républicain, j'étais dans ma commune, en anarchiste révolutionnaire, je leur fais plus aucune confiance. Et là, mais ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives à des positions aussi extrêmes? Et du coup, il me raconte son anecdote qui tue, qui permet de comprendre ce à quoi les opposants historiques se sont confrontés. À savoir. Donc, c'est l'anecdote qui tue, c'est Claude et ses deux potes de l'association des élus opposés à l'enfouissement, qui s'appelle Léodra, et qui sont à nouveau à fond dans la lutte maintenant. Qui se retrouve à Matignon, donc chez Lionel Jospin, donc boss, hein, boss de fin de niveau. Il se retrouve dans le cabinet de Lionel Jospin chez sa conseillère environnement. Donc il faut réaliser un peu ce que ça signifiait à l'époque. Il y a eu 5 ans de lutte, ok, je vous ai un peu dit. Il y a eu des pétitions avec 60 000 signataires, il y a eu des alertes en disant le labo c'est un cheval de Troie, on va se faire avoir, c'est n'importe quoi. Il y a eu et la stratégie à l'époque dominante, la stratégie de l'époque des associations et des collectifs, c'était massifier pour convaincre l'opinion publique, pour faire pression sur les décideurs, pour qu'ils entendent nos arguments. C'est une stratégie qui était à l'époque hégémonique dans ces luttes-là. C'est-à-dire, on ne mise pas tellement sur l'action par nous-mêmes, directe, pour bloquer, etc. On va convaincre, a priori, les élus et les gens qui ont le pouvoir, qu'on dit vrai et qu'il faut qu'ils raisonnent. Donc c'est un pari fait sur la rationalité. Vous voyez, c'est un pari où on croit que en fait c'est une question de rationalité. Vous voyez qu'en fait ils vont pouvoir entendre raison quand on va leur mettre les arguments. C'était ça le pari. Donc eux ils se retrouvent devant, dans ce pari-là, dans cette logique-là, ils se retrouvent devant Bettina, la conseillère environnement de Jospin. Il faut s'imaginer, du coup c'est le boss de fin de niveau. Hein, ça fait des années qu'il lutte, là il se retrouve à Matignon. C'est un gouvernement de gauche plurielle. C'est Dominique Voynet qui est ministère de l'environnement et qui doit signer ou pas le décret d'autorisation du laboratoire, je vous ai parlé, et eux, ils luttent depuis 5 ans. Donc plein de gens dans la lutte, dans les comités locaux, c'est des gens qui sont reliés aux Verts, pas tellement en tant que politiciens, en tant que militants de base convaincus qu'il y a quelque chose à faire par ces stratégies électorales. Donc il y a quand même une espèce de lien un peu organique entre les Verts, enfin il y a un espoir que les Verts et le gouvernement de gauche pluriel va servir de relais institutionnel et politique. Il y a en 97 le projet de Superphénix qui est abandonné. Donc Superphénix, c'était le projet de Crémalville, le surgénérateur, neutron rapide, etc. Et Jospin le ferme. Là, on se dit, putain, il y a un contexte, quoi. Faut y aller. Du coup, ils se retrouvent dans le bureau. Et là, ils y vont, quoi. Bon, bah, écoutez, nous, on est venu vous dire que c'était n'importe quoi, ce projet. Le laboratoire, c'est un cheval de Troie. C'est une aberration technique, économique, sociale, environnementale. On sait pas faire, c'est dangereux. Enfin, commence à y aller, quoi. Et là, elle les interrompt. Elle dit, non, mais attendez. Arrêtez. Je connais vos arguments et laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Ce projet est une aberration. Et là, elle leur fait un speech de 5 minutes où elle leur resserre leurs arguments, mais elle le dit mieux qu'eux, parce que c'est une politicienne, elle est bien formée. Donc elle leur dit ça, elle dit, mais vous avez raison, ce projet, c'est pas bien. Et elle finit son discours en disant, et je vous informe que je ne suis pas sans savoir que le Premier ministre lui-même partage mon point de vue. Donc là, eux, ils sont là en mode, putain, on est au boss de fin de niveau, et on nous dit qu'on est d'accord, qu'on a écouté nos arguments. Nos arguments, ils sont entendus, ils sont partagés au plus haut niveau du gouvernement. Et là, elle dit, oui, mais le projet va se faire. Et alors, du coup, là, ils sont là sciés en mode, ah bon, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que c'est mauvais, c'est une aberration, il va se faire. Elle dit, bah, oui, il va se faire. Va se faire. Hein, vous savez très bien le poids qu'a le lobby nucléaire dans le corps de l'État. Vous savez très bien que quand on est au pouvoir, on fonctionne par arbitrage, qu'on va pouvoir prendre des décisions sur certaines choses, mais qu'on va pas pouvoir en prendre sur d'autres, qu'on a pu arrêter Super Phoenix parce que c'était une aberration financière pour plein de raisons, mais qu'à côté de ça, il y a aujourd'hui Bure, c'est pas un projet définitif, c'est un projet de recherche. Enfin voilà, on peut pas peser comme ça, ça marche pas comme ça, on détient pas le pouvoir comme ça. Qu'elle leur fait en gros un cours de réel politique, quoi, de qui tient vraiment les rênes dans l'état nucléaire. Vous voyez ? Donc eux, ils arrivent au plus haut niveau de l'État, les institutions, en les dans un bureau du Premier ministre, on leur dit « Mais nous, on est d'accord avec vous, mais on ne peut rien faire. » Et donc là, ils sont sciés. Ils sont sciés de chez sciés. Ils leur disent « Mais alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, elle leur dit « Mettez-nous 10 000 personnes dans la rue, on en reparle. »
Et donc je vous rappelle la conférence donc Histoire et témoignages des luttes à Bure de 1994 à aujourd'hui, le samedi 23 février, donc samedi prochain, à la maison de quartier Le Flambeau, 13 rue de Bétheny. Donc c'est à partir de 19h. Et donc les intervenantes, il y aura des opposants, des opposantes à l'enfouissement des déchets radioactifs. Voilà. Allez, bonne soirée.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est sain, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrig à Montpellier, Canassus, à Toulouse, à Local, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.